Je suis en compagnie de Jeannette Lin et de Patrice Maniglier. Merci Patrice Maniglier de me recevoir à nouveau chez vous. Nous parlons d'un article, d'une recension, d'un livre. Et donc cet article est paru dans la revue Critique de août-septembre 2022. Ce numéro de critique avait pour titre de dossier « Vous avez dit nature » et votre article s'appelle, votre article en commun s'appelle « Ramener la critique sur Terre, le tournant planétaire de Dipesh » Chakrabarty. Pour nous faire comprendre l'entreprise intellectuelle de Dipesh Chakrabarty, vous passez d'abord par le geste fondamental et fondateur de Michel Foucault. J'aimerais que vous nous exprimiez ce geste afin qu'on comprenne dans quoi l'entreprise intellectuelle de Dipesh Chakrabarty se circonscrit, se résume, voilà, comment ça fonctionne grâce à ce premier geste de Michel Foucault.
Oui, ben alors, c'est vrai que, bon, on pourrait dire que ça relève de ce qu'on appellerait l'histoire critique, c'est-à-dire une reprise du projet kantien de dégager les conditions de possibilité d'un savoir, mais en l'historicisant, donc c'est ce que faisait Foucault, c'est-à-dire montrer à quelles conditions historiques de possibilité l'histoire elle-même, en fait, devient possible comme savoir, et d'autres disciplines, comme les sciences sociales en général. Et je crois que Chakrabarty a poursuivi en fait cette entreprise, qui a ça de particulier par rapport à Kant, qu'elle ne confie pas à la philosophie le soin de réfléchir a posteriori, en quelque sorte, et de l'extérieur, sur ses conditions de possibilité, c'est-à-dire sur ses, disons, ses formes épistémologiques, quoi. Mais c'est la discipline de l'intérieur qui se relativise ou qui ressent la nécessité pour continuer son travail proprement positif de faire cette opération critique de relativisation d'elle-même en réalité. Donc c'est ce que Foucault faisait en fait. C'est-à-dire Foucault avait montré, je pense aux mots et aux choses, que l'histoire devait elle-même être historicisée. C'est-à-dire que la catégorie d'histoire n'était pas une catégorie intemporelle. Alors évidemment ça ouvre un abîme, en fait, sur la catégorie d'histoire, puisque, du coup, quelle est donc cette histoire dans laquelle l'histoire est elle-même relativisée ? Et c'est la raison pour laquelle Foucault pouvait introduire des catégories comme celle d'événements, ou qu'il avait inventé cette notion d'archéologie, qui oblige à se situer, disons, dans un temps qui n'est ni celui de la philosophie, ni celui de l'histoire positive. Alors, il se trouve que Chakrabarty, je pense, a fait la même chose depuis le début. Et que son entreprise, qui d'abord sort de cet ensemble, ce groupe d'intellectuels, d'historiens marxistes, qu'on a appelé les gens des études subalternes, dont la grande figure était Goa, et qui, donc dans les années, ça doit être quoi, les années 70, je pense, en tout cas c'est là où ça prend forme.
Le numéro fondateur des Subaltern Studies, je crois, qui est sorti dans les années en 1980, mais c'est dans les années 90 que Gouar commence à rassembler des historiens indiens et britanniques pour un travail de réécriture de l'historiographie indienne.
Voilà. Ouais. Et ils sont dans un contexte, disons, d'interrogation sur les limites, finalement, de l'introduction d'une perspective marxiste aux thématiques de l'Inde, en fait, de l'histoire indienne, avec un problème assez simple, en fait, qui est de dire, finalement, le marxisme a développé ses catégories fondamentales, comme celle, par exemple, du travail, dans un contexte intellectuel et culturel assez déterminé, qui est celui de l'Europe pré- et puis industrielle, quoi, pré-industrielle et industrielle, et que ces catégories ne sont pas totalement intemporelles. Et donc que le fait de l'introduire dans le contexte indien, à des fins subversives ou à des fins critiques au regard de la colonisation, a en même temps cet effet paradoxal de prolonger l'acte, disons, de domination coloniale, puisqu'on se trouve à appréhender une réalité qui est celle de l'Inde, avec des outils intellectuels qui sont certes critiques, mais quand même critiques à partir du monde du colonisateur lui-même. Et donc je crois que, si j'ai bien compris, cette entreprise, quoi, les subalternes se disent, oui, j'allais dire plus généralement des études postcoloniales à ce moment-là, mais c'est peut-être, bon, il y a peut-être des nuances, parce que je pense que par exemple Edouard Saïd a un autre problème, mais bon, disons, ces gens-là, je crois que c'est vraiment ça, c'est vraiment une tentative pour avoir un marxisme, on pourrait dire, à l'échelle globale, en fait. Non ?
Bah, je veux dire, un marxisme en même temps local, adapté aux situations locales, mais du coup qui...
Exactement, un marxiste qui dépasse en quelque sorte ses limites provinciales finalement et qui est capable de donner des outils pour se relativiser lui-même, à vrai dire. Et donc c'est dans ce contexte-là, je crois que Chakrabarty développe sa réflexion. Et il y a, de ce point de vue, moi, un chapitre en tout cas qui m'avait beaucoup frappé, qui est dans Provincializing Europe, qui, si je m'en souviens, le chakrabarty 4, dans lequel Chakrabarty travaille sur la catégorie de travail, précisément, avec une question qui est de savoir si on peut appliquer cette catégorie de travail, qui est une catégorie complètement sécularisée dans le texte de Marx, à des contextes dans lesquels le travail n'est pas complètement séparé de l'intervention d'entités divines qui, disons, ne relèvent pas de la catégorie de la production, mais de la catégorie de la, on pourrait dire, du rituel, de la vocation, du soin qu'on prête aux divinités.
Bon, on va s'attarder justement sur cet exemple-là que vous citez dans votre article. Qu'on comprenne bien, jusqu'ici, le grand livre de Dipesh Chakrabarty, c'était Provincializing Europe, qui a été traduit en français il y a une dizaine d'années. Ça s'inscrit dans ce mouvement postcolonial et particulièrement des subaltern studies, qui ont d'abord pris place en Inde avec des penseurs. Et dans ce livre-là, vous prenez justement cet exemple de tisserands musulmans d'Inde, du Nord, et de leur usage de prière qui est lié au tissage. Et vous écrivez ensuite, pour nous faire comprendre, « Il n'y a de sens à dire que les tisserands bengalis travaillaient que si on met au jour les opérations de traduction qui permettaient en retour de provincialiser la catégorie européenne de travail. » Qu'est-ce que permet ce concept de traduction qui semble important pour Dipesh Chakrabarty et que vous restituez au début de votre article ?
Alors, ce qui est important dans le concept de traduction, je dirais, c'est que donc, dans Provincialiser l'Europe, il y a vraiment l'idée que l'histoire de la modernité, elle a été pensée que selon des paramètres ou des catégories européennes, et que ces termes-là ne permettent pas de rendre compte de la modernisation de l'Inde. Et que donc, dans le programme des études subalternes, il s'agit de prendre au sérieux la parole de ces groupes sociaux subalternes et de prendre littéralement leur catégorie à eux et à elles. Et donc, au lieu de considérer que l'histoire de la modernité est en fait une trajectoire historique où on est pris dans un devenir commun et qui procède par étapes, et donc il y aurait la prémodernité, la modernité, et que ce processus aurait eu lieu en Europe, que ce soit de manière... qui ne soit pas nécessaire, mais de contingente, et qu'ensuite elles auraient été une transition dans d'autres contextes, et se seraient déroulées de la même manière, et dès qu'en fait, c'est pas tant qu'il n'y a pas eu. Que la modernité ne doit pas être comprise en termes de transition, mais en termes de traduction, et donc de transformation, et qu'en fait, il y a plusieurs trajectoires historiques de la modernité, et donc plusieurs manières d'être moderne, et c'est ça aussi qui est important. Et que donc ce qui est universel, c'est pas tant les catégories européennes, mais les universaux sont en fait, comme on dit dans l'article, c'est les effets de ces processus de traduction. Et c'est dans cet espace-là, de cet espace de la traduction, qui fait passer, qui nous fait sentir ces universaux-là.
Ouais. C'est-à-dire que il y a deux positions par rapport auxquelles Chakrabarty, plus probablement que beaucoup d'autres, enfin, se situe, et par rapport auquel il ouvre une troisième option. La première, évidemment, c'est une forme d'universalisme, en quelque sorte, un peu dogmatique, on pourrait dire, au sens kantien du terme, et même au sens ordinaire, c'est-à-dire un peu naïf, consiste à croire que, bah oui, les êtres humains, par exemple, ils travaillent, voilà, c'est tout. Et donc, on peut étudier la différente manière dont ils travaillent, bon. Et donc, le travail aurait été transformé, par exemple, sous l'effet des innovations modernes, en quelque sorte. Bon, première option. Deuxième option, qui serait de dire, bah non, en fait, le catégorie de travail est une catégorie, elle est inventée à un certain endroit, elle n'est pas nécessairement pertinente partout, et donc, cette catégorie ne vaut que pour l'Angleterre, la France... L'Angleterre décrite, parce qu'en fait, c'est ça le grand modèle, c'est le livre de E.P. Thompson sur la formation de la classe ouvrière, en fait. Pour ces gens-là, c'est ça le modèle. Le modèle, c'est ce grand livre de l'historien britannique du monde ouvrier, E.P. Thompson. Et donc, bon, voilà. Donc, ça veut dire qu'on l'aurait, en quelque sorte, localisé, alors relativisé dans un sens, à mon avis, incorrect du mot relativisé, c'est-à-dire, en fait, contextualisé, tout simplement, la catégorie de travail. Et le choix que fait Chakrabarty, c'est en effet... comme Jeannette Lin vient de le dire, c'est celui de la traduction, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le travail est bien un universel, mais il n'est universel que parce qu'il a été effectivement traduit, de fait, traduit point par point, et traduit veut donc dire bah, modifié, en fait. Et s'il a été modifié, bah, ça veut donc dire en retour qu'il y a donc une différence, en effet, entre le travail au sens européen et le travail au sens indien, et qu'on ne saura ce qu'est le travail au sens européen, donc la catégorie de départ, que si on la compare à ce qu'elle a donné dans sa traduction. Et c'est ça que veut dire provincializing Europe. Et c'est un point qui a quand même été, je trouve, assez mal compris. Y compris parce que le titre, évidemment, un peu fort, enfin un peu provocateur, bon, qui paraît assez trivial aujourd'hui, quoi, provincialiser l'Europe, voilà, c'est-à-dire l'Europe est un petit bout, c'est un tout petit bout, c'est une province parmi d'autres.
Mais c'est un particulier.
Voilà, c'est un particulier, donc d'une certaine manière, ça alors qu'en fait, le livre de Chakrabarty veut aussi dire l'inverse, c'est-à-dire il veut dire, bah, justement, en réalité, c'est précisément parce que l'Europe a été traduite que du coup, on peut la provincialiser, et que ça n'est qu'à la conduction, qu'on comprenne les variations... les transformations, pour reprendre ce mot qui a été utilisé, là, qui ont eu lieu dans la traduction, qu'on pourra comprendre cette particularité, effectivement, qu'est l'Europe. Et donc, sur le cas du travail, bah, ça donne, par exemple, effectivement, le fait qu'un monde dans lequel le travail est aussi une forme de la prière ne veut pas dire que, du coup, le travail ne s'y applique pas et qu'il n'y a rien d'autre à dire. Ça veut dire qu'on comprend mieux ce que c'est que le travail par opposition à une situation dans laquelle il est aussi une prière. C'est ça la provincialisation,
et donc
la relativisation.
La méthode de Chakrabarty, vous la décrivez ainsi, une histoire critique conséquente doit étudier les traductions de ses propres concepts. Et ça, c'est une phrase qui fait vraiment penser. Une histoire critique conséquente doit étudier les traductions de ses propres concepts. Ça serait ça le travail de Chakrabarty, qui est sans cesse... d'étudier les traductions.
C'est ça. Donc il est historien, véritablement, au sens où il fait en même temps, on pourrait dire, une sorte d'épistémologie historique et anthropologique de ses propres catégories fondamentales. Et ça, il le fait depuis toujours. C'est-à-dire, quelle est la limite de validité ? Enfin, disons, je suis historien, ça veut dire je pense qu'il y a quelque chose comme de l'histoire à faire. Et je ne peux comprendre que ce que ça veut dire que faire de l'histoire et appréhender les êtres comme des êtres historiques qu'à la condition de me mettre dans ce travail de traduction de la catégorie d'histoire. Elle n'est pas du tout évidente, elle n'est pas garantie d'avance. Donc, et là encore, il ne s'agit pas de dire donc elle est purement particularisée, contextuelle, locale, etc. Ça veut dire non, il y a moyen de construire un universel de l'histoire. Mais ça ne peut se faire qu'à la condition d'analyser la manière dont la catégorie même d'histoire peut être traduite pour être rendue valide dans des contextes où elle ne le serait pas a priori.
Je vais être un peu trivial. Le nouveau livre de Dipesh Chakrabarty vient d'être traduit en français. Désolé, ça rien à... on ne parle pas du tout de ce même type de traduction. Mais voilà, c'est vient de sortir chez Gallimard la traduction de The Climate of History in a Planetary Age, et votre article dans la revue Critique est une recension du livre en anglais. Il a été traduit en français par Après le changement climatique, penser l'histoire. Ce titre en français est problématique puisqu'il gomme le terme de planétaire. Or, vous écrivez que Chakrabarti affirme que la véritable question qui caractérise notre présent exige d'introduire un couple conceptuel, celui du global et du planétaire, d'où son titre anglais « The Climate of History in a Planetary Age ».
Oui, bah, oui, c'est vrai que ce titre et cette traduction est un peu surprenante, mais je ne pense pas que ce soit ici les traducteurs hein, qui soient en jeu, c'est plutôt les éditeurs. Et c'est vrai que c'est un choix qui est malheureux, a priori, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a après le réchauffement climatique.
Après le changement climatique, c'est l'histoire.
C'est déjà ça. Après, c'est un peu curieux parce que bon, on n'est pas après, quoi, on est au milieu. Donc déjà, c'est déjà très étrange de présenter les choses comme ça. Je comprends néanmoins le penser l'histoire parce que c'est bien ça dont il est question, je crois. Ça, c'est vrai. C'est vrai que l'enjeu de ce livre, effectivement, est de faire de l'histoire un objet de pensée. Alors là encore, au sens vraiment foucaldien.
Ce que j'allais dire, c'est que le terme, quand même, enfin la traduction qui a été choisie, alors gomme une des contributions cruciales de ce livre, qui est justement la catégorie de planétaire. Il y a ce geste quand même de diagnostic du présent et de prendre en considération le réchauffement, enfin le changement climatique comme événement qui nous force à changer nos catégories de pensée. Et ce qui intéresse Chakrabarti en tant qu'historien, c'est évidemment la catégorie, enfin c'est sa pratique de l'histoire, et la catégorie d'histoire et de temps historique, plus précisément.
Ouais. Donc je vous interroge aussi sur ce couple conceptuel qu'introduit Chakrabarti et qui est nouveau, qui nous offre. Ce couple conceptuel est celui du global et du planétaire, et c'est tout l'enjeu de son livre, d'avoir ce couple conceptuel. Peut-être pouvons-nous commencer par la distinction entre le global et le planétaire.
Alors, le global correspond en fait au régime de planétarité une conception et une pratique de la Terre telle qu'elle a été produite par l'histoire de la colonisation, du capitalisme, de la mondialisation, d'où le global qui vient en anglais de globalization, ici, et donc des pratiques de la modernité, techno-scientifique, mais aussi économique et politique. Et l'idée fondamentale de Chakrabarti, c'est que la terre de la mondialisation, le globe de la mondialisation, n'est pas la même terre, en fait, que la terre de la planétarité, qui est donc cet objet qui émerge, dirait Bruno Latour, comme actant avec l'Anthropocène. Du fait des activités humaines qui donc ont un impact sur les dynamiques planétaires, sur les cycles bio-géochimiques du système Terre. Et que donc, ce sont deux catégories distinctes, la Terre de la mondialisation et la Terre de la planétarisation, mais dont elles sont prises dans des trajectoires historiques différentes, mais ça ne veut pas dire que leurs histoires ne se rencontrent pas. Et pour Chakrabarti, c'est important de souligner que oui, la Terre de la planétarité émerge et à partir de la mondialisation, mais que son histoire, elle, n'est pas réductible à cette histoire de la mondialisation, et notamment du fait de son devenir et du fait de ce qu'elle interpelle d'un point de vue de nos catégories et de notre réponse.
Alors nous allons revenir tout au long de l'entretien sur ce couple conceptuel, mais on va d'abord commencer par le premier chapitre du livre de Chakrabarti. Le premier chapitre, c'est The Climate of History for Thais, et c'est son article de 2009 qui a été immédiatement célèbre, puisque dans cet article, il pose la question de la temporalité et d'une nouvelle temporalité, c'est-à-dire que le temps géologique s'accélère et qu'il rejoint notre temporalité humaine. Vous écrivez, il ne s'agit pas tant pour Chakrabarty d'insister, comme d'autres le font, sur l'agentivité des non-humains que sur le caractère géologique de l'agentivité humaine elle-même. Il y a un temps chronologique qui commence à se croiser, ce temps géologique et cette temporalité humaine. C'est ce qu'il introduisait dans cet article de 2009, qui est le premier chapitre de son livre.
Oui, là on voit bien qu'il est dans le même objet que ce que Stenger s'appelait aussi l'intrusion de Gaïa, dont elle disait bien au fond que, évidemment, la Terre, ça a 5 milliards d'années, d'un certain côté. D'un autre côté, la Terre est une idée neuve, en fait. Enfin, c'est pas une idée, d'ailleurs, c'est une chose neuve, très récente, qui, au fond, date peut-être des années 70. C'est-à-dire, en tant qu'elle a commencé à infléchir par ses actions, les actions d'autres êtres. Donc, nous avons l'habitude de dire que Gaïa est un actant sur la Terre. La Terre est un actant sur la Terre. Est un actant parmi d'autres sur la Terre. C'est comme ça qu'il faut, je crois, comprendre, en fait, cette notion de Terre. Sinon, on a l'impression d'un paradoxe, au fond, un peu gratuit. Mais c'est pas un paradoxe gratuit, c'est effectivement le fait que les équilibres biogéochimiques à partir d'un certain seuil, disons, de modification, implique des réactions qui ne sont pas entièrement prévisibles. Et c'est un point sur lequel, moi, j'aime bien insister, parce qu'il me paraît important pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'agentivité, en fait, du système Terre. On peut parler d'un agent à partir du moment où il n'est pas simplement une conséquence linéaire d'une autre force, qui est entre la cause et l'effet, quelque chose d'un petit peu incertain, qui est un système, en l'occurrence. Et c'est ça qui fait qu'il y a une réaction. Et donc, c'est ce système qui réagit. En l'occurrence, c'est un événement. C'est ça qui est important. C'est que la Terre est un événement. La Terre n'est pas une chose, en fait. La Terre, dans le sens dont il est question ici, c'est un événement. Et alors, c'est un événement qui est hyper intéressant, puisque c'est un événement qui remet en cause la grille générale d'appréhension des événements qu'on appelle le temps. Une manière de situer les événements les uns par rapport aux autres. Et c'est une des grandes contributions inestimables, quand même, et immédiate que Chakrabarty a fait à ce débat, en disant « Mais attendez, regardez ce qui est en train de se passer ici. » Ce qui est en train de se passer, c'est que les schémas de repérage que nous avons des événements sont totalement bouleversés par cet événement même. Et là, on voit bien ce que ça veut dire l'histoire critique. C'est un événement qui remet en cause la conception même de l'événementialité, comme telle. Donc il est à la fois empirique et spéculatif. Il fait les deux à la fois. Et donc l'argument est très simple, il est de dire, finalement la temporalité historique au sens classique du terme, c'est celle dont parle Thucydide, quoi, dans lequel des agents humains luttent les uns contre les autres pour modifier, on pourrait dire, leurs institutions, enfin leur cadre d'existence, le cadre d'existence qu'ils fabriquent eux-mêmes, dans un cadre qui lui-même reste neutre, qui peut être modifié par eux, certes, et d'une certaine manière avoir aussi des effets, l'éclatement des effets, mais qui n'est pas justement un agent au sens propre, et encore moins un agent au niveau global. C'est-à-dire que le climat peut avoir des effets sur la bataille, mais ces effets ne sont pas des conséquences de la bataille elle-même, et ne sont pas non plus des conséquences de la bataille elle-même indirectes, telle que ce serait une réaction du système climatique à la bataille, et troisièmement, ne sont pas en plus des conséquences du déséquilibre du niveau global, quoi. Et c'est ça qui se passe. Et donc cette conjonction du temps historique et du temps géologique produit un effet de diplopie, on pourrait dire. On voit deux choses à la fois. On n'arrive pas à se... Comment on appelle le fait de se... à s'accommoder sur un temps ou sur l'autre, on est tout le temps dans les deux, en fait, et c'est vraiment des choses très simples, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en contribuant à utiliser de l'électricité produite par des réacteurs, des centrales nucléaires, on produit des déchets nucléaires, des déchets radioactifs qui ont des durées de vie de plusieurs, ça dépend lesquels, mais enfin, ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années, voire millions d'années. Donc ça veut dire que l'action que je fais aujourd'hui pour me chauffer dans un temps relativement limité peut être évaluée au regard du problème de la guerre en Ukraine, en même temps doit s'évaluer du point de vue temporel dans une échelle de temps qui excède jusqu'à la possibilité même de survie d'une espèce. Donc c'est cet écart, enfin, le mélange permanent, ce déraillage permanent d'une temporalité à l'autre. Donc Chakrabarti dit, bah, il fait la caractéristique de l'événement.
Oui, en fait, du coup, ce qui est vraiment important pour Chakrabarti dans cet article, c'est de dire la notion d'anthropocène, c'est pas simplement qu'il y a une interaction entre les activités humaines et leur environnement et que les événements climatiques ont un impact sur l'histoire humaine, mais c'est de dire que, en fait, ce sont les activités humaines qui ont un impact, qui sont une partie intégrante de la géophysique de la Terre, y compris après leur... enfin, au-delà de l'existence humaine. Et donc, c'est le caractère... cette capacité d'agir géologique de l'humain qui, en fait... ici font rencontrer l'histoire humaine et l'histoire géologique d'une manière complètement inédite et qui transforme profondément les catégories. Et là, en fait, dans cet article, en soulignant justement l'hétérogénéité de ces temporalités, on voit vraiment la continuité avec le travail que Chakrabarti avait fait au niveau des études postcoloniales, qui avait été justement de montrer qu'il y avait plusieurs temporalités historiques, plusieurs devenirs historiques, donc ce soit au niveau de la modernité européenne et de la modernisation en Inde. Et sauf que là, ça prend une nouvelle ampleur. Mais ça, c'est toujours je pense que ça, c'est vraiment une continuité dans son travail. C'est l'idée que l'histoire, le temps historique, c'est une multiplicité de temporalités. Et qu'au fond, ce qui se passe avec l'Anthropocène, et c'est la même critique qui était adressée dans Provincialiser l'Europe par rapport au marxisme traditionnel, c'est-à-dire que ce sont le marxisme et aussi le libéralisme, donc c'est-à-dire les théories politiques dominantes que nous héritons de la modernité, sont en fait des théories politiques qui ne sont pas équipées pour penser une hétérotemporalité de l'histoire, parce qu'elles sont, en anglais on dirait indebted, elles sont prisonnières d'une certaine philosophie de l'histoire et donc d'un certain régime d'historicité, le concept que Chakrabarti emprunte à Hartog. Et donc c'est ça qui change radicalement. Et donc, notamment par rapport à cette question de l'agentivité et du fait que l'humain a maintenant une capacité d'agir au niveau des systèmes planétaires, c'est une capacité d'action qui n'est pas du tout... c'est une échelle de l'action humaine qui n'est pas du tout intégrée et intégrable dans... les théories politiques que nous avons à notre disposition.
Et là, je remarque, on n'avait pas vu avant la préparation de l'article, parce qu'effectivement, ce que tu viens de dire me semble important, c'est-à-dire le fait qu'il y a une continuité aussi dans la pensée, non seulement de la multiplicité des temporalités, mais aussi de la multiplicité des agentivités. C'est-à-dire qu'effectivement, dans
Provincializing Europe, il y avait toute une... sur la question des dieux, des esprits...
Voilà. Oui, pardon, vas-y. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire le fait qu'on a tendance à penser l'agir humain d'une manière qui serait limitée à l'action qui est émise à partir du corps, enfin, sur le modèle de la production, justement, du travailleur en train de transformer une matière inerte, quoi. Donc, c'est comme ça que l'Occident a pensé ce que veut dire l'agir humain dans son rapport. Alors que lui disait, oui, mais il y a d'autres manières de penser l'agir humain, justement, par exemple, en convoquant sur le mode en même temps de la prière et du geste. À la fois geste efficace et prière qui ouvre qui demande, quoi, donc qui n'est pas en soi efficace. Et là, d'une certaine manière, dire effectivement, et c'est vrai qu'il est quand même le seul à l'avoir dit, à savoir que ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une transformation de l'agir, l'agir humain devient un agir géologique. Et il ne faut pas du tout, pas du tout effacer cette chose extraordinaire, c'est-à-dire que c'est aussi étonnant que le fait que des non-humains soient des agents. Ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'on doit se rapporter. Et c'est vrai que c'est ça qui l'intéresse le plus. C'est nous forcer à nous rapporter à ce que veut dire agir d'une manière dont nous n'avions aucune idée tant que nous ne faisions pas ce travail de traduction.
Et surtout, qui est, dans le cas de l'Anthropocène, c'est un agir qui nous est inaccessible, qui est inaccessible au vécu, à l'expérience humaine, et qui, en plus de ça, excède l'existence. Et ça, d'un point de vue phénoménologique, il y a quelque chose qui est en crise par rapport à la catégorie d'agentivité.
Vous écrivez d'ailleurs, avec le réchauffement climatique, nous devenons donc sujet d'une histoire dont nous sommes absents.
Tout à fait. Alors ça, c'est très important
pour accompagner pour
justement la catégorie de planétaire, c'est aussi penser. Et donc, des phénomènes que ne permet pas de penser, comme on disait, le marxisme et le libéralisme, qui sont les conséquences irréversibles de l'action humaine. Telles que, donc, on parlait de la question des déchets radioactifs, mais l'effondrement de la biodiversité prend des milliers d'années à se renouveler, etc. Et donc, c'est-à-dire que, autant dans les théories marxistes et libérales, il y a cette idée que, soit que ce soit par le modèle du contrat social, soit que ce soit par le modèle de la révolution, on va pouvoir faire table rase du passé. Et on va pouvoir recommencer de nouveau. Ce que dit Chakrabarty avec le problème de cette stratification des temporalités et des trajectoires historiques, c'est qu'on ne peut pas faire ce processus de reset, et que, en un sens, c'est pour ça qu'il dit que le planétaire n'est pas réductible au global, c'est de dire que c'est pas parce qu'on aura aboli le capitalisme, certes c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, parce qu'en fait on n'aura pas réglé le problème. Et qu'on hérite, c'est le problème de l'héritage, on hérite d'un passé, du passé de nos actions humaines, et qui vont en plus avoir des conséquences dans le futur qui vont aller au-delà même de notre espèce. Enfin, après, il y a la question de la catégorie d'espèce, mais...
On y viendra justement, cette catégorie qui a posé problème au lecteur de Dipesh Chakrabarty. Restons sur ce terme de planète. Vous écrivez que l'objet scientifique qu'est la planète est relativement indifférente aux opérations de traduction. Ça voudrait dire que c'est une sorte de surconcept massif qui ne peut pas faire objet de traduction. Et c'est là-dessus que pense Chakrabarty, qui lui, en utilisant ce concept de traduction, permet de critiquer nos conceptions modernes, à partir de l'Inde notamment, mais que l'objet scientifique même qu'est la planète, lui, ne peut pas faire objet de cette opération de traduction.
Oui, voilà, l'argument qu'on avance est très simple. Il est de dire, au fond, une tonne de carbone, c'est une tonne de carbone pour la planète, qu'elle soit émise de l'Inde, de la Somalie, de la Californie, d'ailleurs. Et donc c'est très embêtant. C'est très embêtant parce que pour nous, c'est pas du tout la même chose en fait. Et d'une certaine manière, donc c'est évidemment c'est pas la même chose. C'est-à-dire que non seulement il y a des inégalités en fait considérables quant à ce que signifie cette tonne de carbone en fait pour les gens qui bénéficient éventuellement de ces effets, mais il y a aussi une différence qualitative, ce genre de vie en fait que ça veut dire. Donc traduire une action dans une autre, je veux dire, l'idée d'énergie, par exemple, la notion d'énergie est typiquement quelque chose qui doit être traduit, qui n'existerait qu'en traduction, comme le travail, quoi. Mais si on regarde les choses du point de vue de la planète, en fait, ça se neutralise. Et donc, Chakrabarty, qui est un embêteur, pour être poli, il est un empêcheur de penser en rond, quoi. Titre d'une belle collection. Vraiment, c'est vraiment un empêcheur de penser en rond. Donc, il veut nous dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites de ça? Qu'est-ce que nous autres penseurs, penseuses, critiques, nourris à la critique de, justement, des excès, ou des naïvetés dogmatiques de la colonisation, de la modernisation, qu'est-ce qu'on fait du fait qu'on se retrouve avec un objet qui, d'une certaine manière, est en bloc, est univoque, quoi. Et la planète, c'est ça. Et donc, effectivement, en ce sens-là, elle est indifférente à la traduction. Et je crois... En fait, tout notre intérêt, je crois, à Jeannette Lin et à moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut... Ce qui nous intéresse, je crois, vraiment, tous les deux, dans chaque partie, c'est comment est-ce qu'on peut concilier une approche univoque et moniste, si on veut, et une approche pluraliste. Comment est-ce qu'on peut tenir ensemble ces deux grands phénomènes, finalement, dont nous héritons, qui sont la décolonisation, qui exige plutôt qu'on regarde les choses en termes de pluralité, en termes de traduction, comme on disait tout à l'heure, de relativisation, etc., d'un côté, mais aussi la planétarité, qui, elle, exige au contraire plutôt qu'on regarde les choses en termes de, parfois quantitatifs, en termes plus univoques, en fait, d'une certaine manière. Et est-ce que l'un ne doit pas en permanence être réintroduit dans l'autre, hein, c'est-à-dire que c'est évident que c'est parce que, d'une certaine manière, il y a colonisation qu'il y a planétarisation, qu'il y a l'anthropocène, quoi. Enfin,
oui, parce quel que soit la colonisation européenne qui a permis le global.
Et qui continue au demeurant. Enfin, je veux dire, les mécanismes de la mondialisation économique et des hiérarchisations, enfin, des inféodations, etc., sont les conditions de possibilité même de ces processus qui citent la réaction des systèmes planétaires. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire qu'il faut, pour appréhender la question planétaire, de toute manière, il faut des réseaux sociotechniques très vastes, il faut des climatologues, il faut plein de choses qui sont situées sur la Terre. Donc on peut évidemment toujours relativiser tout ça, mais en même temps, on ne peut relativiser. Il n'y a de sens aujourd'hui à relativiser tout ça et à comprendre quelle est la place de chacun, si j'ose dire, dans tout ça, que parce que nous sommes tous dans la même mouise, en fait, et dans une mouise qui dépasse notre échelle, y compris spécifique, non seulement de la vie individuelle, mais de la vie de l'espèce tout entière, et peut-être même de la vie tout entière. Donc c'est uniquement parce qu'on est dans la même chose que, du coup, cette chose peut être appréhendée comme n'étant pas la même pour chacun d'entre nous. Enfin, moi, en tout cas, c'est ça qui me passionne, quoi, dans la proposition de Chakrabarti. C'est cette articulation entre le monisme et pluralisme, entre monos et poly.
Et alors, vous l'avez dit, Patrice Maniglier, vous avez employé l'expression d'espèce humaine. Et c'est problématique chez Chakrabarti, vous l'écrivez. Un des aspects les plus controversés de sa proposition est d'avoir suggéré qu'une telle perspective planétaire supposait de réinscrire les phénomènes habituels de l'histoire dans un cadre où figure un concept qu'elle avait plutôt tendance à écarter, celui d'espèce humaine. Et vous ajoutez, ce point a été fort mal compris. Mais ce point-là ne vous semble pas poser tant de problèmes que cela.
Alors, bon, le concept d'espèce, je pense qu'il y a au moins deux choses. Premièrement, je pense que c'est, comme disait Patrice, pour un peu nous empêcher de tourner en rond, un peu provocateur, mais d'aussi, je pense que c'est un emprunt donc, à la biologie pour, dans ce même mouvement, de dire... Ce que aussi nous oblige à penser à la question de l'anthropocène, c'est surmonter la division disciplinaire, c'est-à-dire s'intéresser à ce que les sciences ont à dire pour les sciences humaines et sociales. Donc je pense qu'il y a ce premier geste provocateur et en même temps performatif de dire il faut s'emparer aussi des concepts produits dans les sciences naturelles. Et ensuite... Par contre, c'est pas nécessairement pour dire que c'est une catégorie biologique. Hein. C'est avant tout une tâche politique. C'est-à-dire, comme on disait plus tôt sur le fait que l'anthropocène nous confronte à une dimension de l'action humaine qui, en fait, excède notre existence et qui va avoir des... qui impacte la planète dans son entier et qui transforme les dynamiques planétaires du système Terre, et ce, même après, même après l'extinction de l'humanité, on pourrait dire, ça pose la question de quel est le sujet de l'histoire. Et du point de vue de cette perspective, du point de vue de la Terre, hein, disons, si on veut aussi un peu décentrer provincialiser notre regard, du point de vue de la Terre, c'est l'espèce humaine qui est le sujet de cette histoire-là, du point de vue de son agentivité. Et ensuite, c'est une manière de dire que, bien que l'anthropocène soit dans ses causes circonscrites à des modes d'organisation sociaux, économiques, politiques, historiquement et géographiquement situés, il y a quelque chose dans les effets du réchauffement climatique et de l'anthropocène, quelque chose qui concerne l'humanité dans son ensemble et qui l'interpelle en ce sens-là. Après, je pense que... compléter.
Oui, c'est vrai que cette notion d'espèce humaine, ça a beaucoup gêné et ça continue à gêner. Je suis frappé de voir que Étienne Balibar, lui, en revanche, en fait, reprend cette notion d'espèce humaine dans son dernier livre sur les cosmopolitiques. Il s'appelle « Des frontières à l'espèce humaine », en discussion d'ailleurs avec Chakrabarty. Donc il y a quand même une réception. Et bon, je pense que, effectivement, j'ai mis beaucoup de temps, moi aussi, à comprendre, enfin, c'est au fil de nos discussions qu'on a fini par comprendre que cette notion d'espèce humaine, en fait, elle se comprend à partir du moment où on cherche effectivement à appréhender les agents que nous sommes comme des agents terrestres. Comment un agent peut-il être saisi comme ayant une fonction terrestre, c'est-à-dire au sens de Chakrabarty, au sens où Chakrabarty emploie le mot planétaire, un agent planétaire, on va dire, comme ça au moins c'est plus simple. Eh bien, en vérité, il est un agent planétaire en tant que vivant. Pourquoi ? Et ça, il y a un petit côté Lovelockien, il discute Lovelock, etc. Mais au fond, il y a quand même un petit côté Lovelockien chez Chakrabarty, parce que la grande thèse de Lovelock, le fondement de son idée de Gaïa, c'est quand même l'idée selon laquelle les terrestres ont des effets sur les conditions d'habitabilité globale de la Terre. Et que, comme on peut dire, la Terre a été climatisée par des terrestres eux-mêmes, donc des bactéries, etc. Donc, au fond, ça, c'est le vivant. En fait, c'est le vivant qui fait. Pourquoi ? Parce que le vivant a cette formidable propriété de se continuer lui-même. C'est la notion de lignée. Ça se reproduit, et par la reproduction, en fait, il se continue, et donc il est un espace expérimental, le vivant. Il expérimente. Il tente des trucs, et si ça ne va pas par là, il va par ailleurs. Et donc, il peut, en fait, avoir ces mécanismes, finalement, de régulation, en tout cas, qui donnent le sentiment d'une forme de régulation, parce que c'est le résultat d'une histoire évolutive, en fait. Donc, il n'y a pas d'approche d'une créature comme créature terrestre en dehors d'une perspective évolutive. Qui dit perspective évolutive dit problème de spéciation, en vérité, de mutation, de spéciation, etc. Donc c'est assez logique, finalement, que Chakrabarty finisse par dire, mais en fait, il faut, si on veut nous appréhender comme sujet de cette histoire, hein, ben, il faut nous remettre en fait dans des conditions qui sont celles des lignées évolutives terrestres, et donc en tant qu'espèce. Et bon, effectivement, ce que disait Jeanne tout à l'heure sur le fait que ça, c'est comme ça que travaillent les scientifiques. Si vous lisez par exemple les rapports du Stockholm Institute sur les limites planétaires, ben, ils parlent d'espèces humaines en fait. Il y a énormément de travaux, moi je suis frappé de ça aujourd'hui, il y a énormément de travaux aujourd'hui qui manifestent un nouvel intérêt pour l'histoire longue. J'oserais dire peut-être la deep history, même si je ne suis pas sûr de maîtriser ce concept. Enfin, l'histoire très longue, il y a l'archéologie, il y a les phénomènes d'anthropisation. Donc, bien sûr, il y a le néolithique, mais au-delà du néolithique, il y a au fond toute l'histoire de l'anthropisation. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est au fond, comme au 19e siècle, mais à mon avis pour de toute autre raison, et bien meilleure, on a un intérêt en fait pour cette rencontre entre le présent et la très longue histoire. Encore une fois, ça, c'est un retour à des problématiques qui étaient assez présentes au 19e siècle. Donc ça, c'est, à mon avis, très significatif et assez important. Et ça implique le fait que, ben, on est saisi aussi dans nos besoins vitaux, en fait. Et là, il y a ce très beau chapitre sur le corps d'Alit, dans le livre, dans lequel Chakrabarty, c'est très malin de sa part, parce que, justement, là, on voit bien qu'il mélange complètement une approche subalterne et une approche planétarisée, on pourrait dire écologique, quoi. Et on voit cette grande rencontre, en fait, entre ces deux sources de la critique du monde contemporain que sont, disons, les critiques issues des critiques de la domination, on pourrait dire, de manière générale, et de l'autre côté, des critiques écologiques. Là, les deux se mélangent sur le corps d'Alit, parce que le Dalit, au fond, bah, c'est celui qui se consacre à l'entretien des dépendances terrestres, en fait, qui fait que les excréments, les aliments, la saleté, la prise en charge de toute la matérialité terrestre. Et donc, c'est là où il y a un point de conjonction très fort entre un certain nombre de critiques, encore une fois, issues des pensées de la domination, critiques féministes, critiques, effectivement, liées à la question raciale, voilà, c'est pas pour rien que les gens en général qui s'occupent en France, des poubelles sont racisées très largement, presque exclusivement. Bon, donc il y a tout ce pan-là de la critique, c'est des théories de la domination, et puis en même temps la question du planétaire qui se rencontre ici. C'est-à-dire qu'en fait, ces gens s'occupent précisément de ce dont une autre partie des de la pensée critique ne veut pas entendre parler, c'est-à-dire de notre dimension de vivant, en fait, hein, à proprement parler, de terrestre, lié par plein de dépendances aux autres terrestres, et influençant la dynamique globale. De l'espace d'habitabilité. Et là, il y a peut-être aussi un point sur lequel on n'est pas revenu, mais qui, je ne sais pas si vous aviez l'intention de revenir, mais qui semble ça important, c'est la distinction entre soutenabilité et habitabilité.
Alors justement, allons-y. J'aimerais, pour parler de cela, que nous introduisons un nouveau concept qui est celui de conjonction. On a parlé de traduction, mais il y a aussi la conjonction. Vous écrivez aussi à un moment donné, la notion de soutenabilité relève du global, alors que celle d'habitabilité relève du planétaire. Et de même, vous écrivez, si l'universel global se construit par traduction, l'universel planétaire se construit par conjonction. Essayez de démêler cela pour introduire la conjonction et toujours essayer de faire cette distinction entre le global et le planétaire, qui est le grand sujet de ce livre de Dipesh Chakrabarty. C'est une question très compliquée, mais...
On commence par soutenabilité et habitabilité, peut-être.
Allons-y, que la soutenabilité relève du global et que celle d'habitabilité relève du planétaire.
Commençons peut-être déjà par les termes soutenabilité et habitabilité, parce que soutenabilité...
D'ailleurs, c'était peut-être mieux... Je crois que c'est plutôt développement durable. Enfin, je pense que...
Oui, c'est pareil, d'ailleurs. Durabilité, bon, pour moi, dans ma tête, en tout cas, c'est la même chose. Disons, je crois qu'il entend le mot soutenabilité, non ? Sustainability, en anglais. Mais peut-être qu'en français, c'est développé par développement durable.
Je pense, puisque du coup, ça fait un lien avec ce dont tu parlais sur la question justement de la catégorie d'espèce humaine. Mais désolé, ça va être...
Justement, c'est très bien parce que...
Pour une conversation.
Non, mais justement, l'interview montre que c'est un article écrit à deux et que ça veut dire aussi débat, ça veut dire aussi double lecture et donc discussion. Et je trouve très bien qu'on puisse laisser ça entendre, justement, c'est-à-dire... Vos moments de discussion à tous les deux, on l'a déjà bien senti dans Espèce humaine, que c'était quelque chose que vous avez voulu discuter en disant « Bon, est-ce qu'on est d'accord avec les controverses liées à cette expression par Dipesh Chakrabarty ?» Et on sent bien que ça se fait à deux. Donc, allez-y, vous pouvez débattre.
Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a une clé de lecture supplémentaire sur l'utilisation de la catégorie d'espèce dans le travail de Dipesh Chakrabarty, qui est la question démographique, qui, en fait, le préoccupe énormément. Du fait de sa position d'un point de vue des études postcoloniales, qui est de penser la modernisation en Inde, parce qu'il vient d'Inde, mais c'est aussi vrai de la Chine et d'autres pays, qui passe en fait par cette promesse de développement, ce que le projet de la modernité, les promesses de la modernité européenne, qui a été à la fois d'un point de vue démographique d'augmenter la durée de vie et donc d'avoir une grande croissance quantitative démographique, mais aussi d'améliorer les conditions de vie, donc de réduction de la pauvreté. Et là-dessus, du point de vue, donc du coup, si on provincialise, il y a pour Dipesh Chakrabarty de dire on ne peut pas évacuer si rapidement la question de ces revendications légitimes de la part des habitants et habitantes de l'Inde à, en fait, poursuivre ces promesses de la modernisation. Et donc je pense que là, ça rejoint la question de qu'est-ce que... Et donc on leur promet quoi ? Un développement durable. On dit, bon, ce sera peut-être pas le développement lié entre, comme dirait Pierre Charbonnier, de l'alliance entre abondance et liberté, mais on peut peut-être trouver un compromis qui serait le développement durable. Et c'est là où Chakrabarty introduit la catégorie d'habitabilité, qui, justement, là, c'est de nouveau ressaisi du point de vue de la catégorie de planétaire, donc de la dimension à la fois de l'humain comme force géologique, de l'humain comme espèce biologique, de ces temporalités qui excèdent l'expérience et l'existence humaine, en disant que l'habitabilité, en fait, c'est rendre possible la vie sur Terre, y compris pour les autres, enfin y compris et surtout pour les autres vivants dont l'espèce humaine dépend pour sa propre existence. Et voilà.
Oui, mais c'est deux manières d'évaluer le problème. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir une manière de réfléchir au problème que pose par exemple le réchauffement climatique, ou d'une manière générale des problèmes de nature écologique. On peut l'évaluer en termes de soutenabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on estime que la valeur, c'est un certain mode de vie ou d'existence actuel qui a vocation à se perpétuer, à durer, à se reproduire. Et on va le critiquer en disant, mais en fait, il n'est pas soutenable, c'est-à-dire qu'il va vers un effondrement, par exemple. Typiquement, c'était le livre de Jared Diamond sur l'effondrement. Bon, ça, c'est un problème, certes. C'est un problème que nos sociétés s'effondrent. C'est un problème, peut-être, même que, d'une certaine manière, l'espèce humaine disparaisse. Certes, c'est embêtant. Enfin, c'est peut-être pas... ça pose des problèmes. Mais il y a un autre problème auquel, effectivement, on ne pense pas et qui change quand même les paramètres de la réflexion, qui est le problème de l'habitabilité. C'est-à-dire qu'il se peut que ces activités ne soient pas simplement en train de saper les conditions de possibilité de leur propre continuation, mais en train de saper les conditions de possibilité de l'habitabilité pour n'importe quelle autre lignée évolutive de cet espace partagé qu'est la Terre. Et ça, ça change complètement l'affaire, parce que du coup, on est effectivement complètement décalé. On n'est plus simplement, la valeur n'est plus simplement soit dans le temps, ah mince, je ne vais pas continuer, donc il faut que j'arrête, il faut que je change. Non, la valeur est ici, en fait, la responsabilité est d'une toute autre nature. Et la question que pose Gérard Barthi, c'est comment vous prenez en compte cet élément extérieur, en fait, à vos préoccupations. C'est plus le problème de savoir si ça va pouvoir continuer dans l'avenir. C'est le problème de savoir si vous allez pouvoir... Donc il est possible qu'un certain nombre de lignées évolutives se perpétuent. Je veux dire, c'est le scénario que Latour appelait Exit, ou Elon Musk. Donc, c'est-à-dire qu'on se développe jusqu'au point où c'est le scénario dont Don't Look Up, où voilà, peut-être quelques milliers de personnes s'en vont, en fait, de la planète. Pourquoi pas? Donc, dans ce cas-là, après tout, c'est soutenable, en un certain sens. En tout cas, on arrive à continuer. Par contre, c'est plus habitable. Donc, quelle est la valeur, en fait, qui doit être ici défendue? Donc, ça, ce sont des questions, quand même, qui méritent d'être posées. Bon, il n'est pas le seul à les poser, mais je trouve cette distinction entre soutenabilité et habitabilité est extrêmement puissante. Hein, parce que si on va discuter avec des architectes et qu'on parle de problèmes de soutenabilité, c'est très intéressant. Mais si on leur pose le problème d'habitabilité, c'est quand même pas mal, parce qu'ils sont dans l'habitation, enfin, et donc ils se rendent compte qu'en fait, la manière dont on construit des habitations ici et maintenant pose des problèmes d'habitabilité ailleurs et pour toujours, en fait. Donc ça, c'est... Voilà. Donc ce sont un cadrage sur habitabilité et soutenabilité qui me paraît... voilà. Donc on voit bien que ça correspond, vous voyez, à des problèmes qui sont assez proches de global et planétaire, et avec le décentrement radical que la notion de planétaire implique. Ça ne répond pas à la question de la traduction et de la conjonction,
donc
ça donne le cadre.
J'en viens justement là à votre formule. Si l'universel global se construit par traduction... Et ça, on en a déjà pas mal parlé dans l'interview. L'universel planétaire se construit par conjonction. Et en fait, j'aimerais mieux comprendre.
D'accord. Alors, vous avez raison, parce que c'est le point probablement le plus difficile, effectivement.
Alors, je dirais que dans la question de la traduction, comme on a vu, disons que la traduction, c'est ce processus qui nous permet de circuler dans un espace de faire l'expérience des différences et de circuler dans cet espace, comme on disait, où en fait on croit qu'on parle de la même chose, mais en fait ce dont on parle c'est autre chose, mais il y a quand même une continuité. Et donc c'est-à-dire que parce que ce sont deux manières de structurer la réalité de telle sorte qu'elles finissent par coexister et se superposer en quelques points. Et en fait, l'universel, par traduction, c'est se situer dans cet espace des équivoques, c'est dans cette circulation-là. Mais là, on voit bien qu'on est sur un même espace, en un sens. Alors que tout de suite, en fait, avec l'introduction de ces lignes temporelle, de ce global et de ce planétaire, là on voit qu'on a une forme de disjonction, mais que donc, et pour pouvoir construire cet universel-là à partir de ces lignes hétérogènes, eh bien, ce qui c'est pas la traduction qui va permettre de se déplacer, mais ça va être des processus donc de conjonction. Donc je dirais que ça, je sais pas si...
Ben c'est, on a repris ce terme en fait au titre d'un chapitre de Chakra Bharti. Alors il faut bien dire qu'il lui-même ne le construit pas, ce terme, alors qu'il travaille la notion de traduction dans Provincializing Europe vraiment comme un concept qu'il élabore. Et encore une fois, ce qui est important dans cette idée de traduction, c'est que la traduction, elle est à la fois continue et différente. Hein, pour revenir sur ça.
Elle fait sentir les différences.
Voilà, ça, c'est très très très
elle
très profond.
Ouais,
c'est-à-dire que c'est grâce à la traduction, c'est-à-dire grâce à l'apparente réduction des différences, qu'on peut du coup sentir la différence, par exemple, des langues. C'est parce qu'on traduit de l'une dans l'autre qu'on peut sentir la différence entre la construction du sens en français et la construction du sens en anglais. Si on n'était pas capable de traduire, on ne serait pas capable de particulariser le français par opposition à l'anglais. Et donc, grâce à la traduction, ben, on peut redéfinir les termes par relation les uns par rapport aux autres. Moi, je trouve ça très structuraliste. Mais bon, ça, c'est mon petit dada. Donc, la traduction, ça permet de faire émerger la structure, disons, d'une certaine manière. Donc, voilà. Donc, c'est ça que veut dire cet universel par traduction. Alors, la modernité est un très bon exemple. C'est-à-dire, effectivement, on croit qu'il n'y a qu'une seule modernité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a plusieurs. Et ça ne veut pas dire qu'elles sont complètement séparées, ça veut dire justement qu'elles sont unies par l'équivoque même du terme modernité, et que si on s'installe dans cet équivoque même du terme, ah ben c'est très bien, parce que c'est là qu'on va pouvoir situer l'une par rapport à l'autre. Donc comprendre que la modernité européenne doit se définir par différence avec ces autres modernités qui l'ont traduite, sans lesquelles elle serait une sorte d'universel perdu au fond. Elle serait plus localisable, vous voyez.
Justement, c'est là où on comprend que les universaux ne sont pas des identités, mais ce sont des différences.
Oui, moi je dirais volontiers, c'est même des structures, parce que c'est des espaces, finalement, ça permet de localiser, c'est de localiser, de savoir où, quelle est notre modernité, par différence avec celle des autres, et donc c'est, ça crée un espace. Alors là, effectivement, avec la planète, on a un autre espace, qui est vraiment pas pareil, et qui est plus embêtant, parce que le premier, il nous embête, bien sûr, voilà, toutes les différences anthropologiques nous embêtent, en fait. On aimerait bien qu'il n'y ait que de l'universel, ou on aimerait bien qu'il n'y ait que du particulier.
Mais bon, ça serait plus simple,
ça serait mais plus c'est simple, pas le cas. Voilà, bon. Mais en gros, quand même, on sait plus ou moins y faire. À mon avis, on avait des outils pour le faire, même si tout le monde n'a pas compris qu'on avait des outils pour le faire. Alain Finkielkraut n'a pas compris qu'on avait des outils pour le faire. Des relativistes forcenés n'ont pas compris qu'on avait... Mais bon, à mon avis, si on est un peu attentif et qu'on tend l'oreille, on avait des outils pour le faire. La valeur d'une œuvre comme celle de Chakra Bharti, c'est d'être un cran plus loin et de nous dire, oui, mais là, par contre, on n'a pas d'outils, en fait, sur la question du planétaire. Alors pourquoi ? Parce que là, quand on se déplace, disons, d'une échelle, enfin, je ne sais même pas si c'est vraiment le mot échelle qui convient d'ailleurs, mais enfin, d'un espace comme, qui est pertinent pour nous, comme se chauffer, se déplacer, etc., à son effet planétaire, comme on l'a bien compris, on a le sentiment de s'annuler complètement, de disparaître dans... C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, elle est indifférente, c'est-à-dire que la signification planétaire de ce que je fais est d'une certaine manière indifférente à ce que je fais. Et pourtant, moi, j'y suis sensible. En tout cas, si je me projette dans mes descendants très lointains, moi, je suis très sensible. Mais elle, elle est absolument indifférente. Quelle que soit la signification que j'ai donnée au fait de, encore une fois, de consommer de l'énergie, bah, c'est de l'énergie, quoi. Donc là, je bascule. Mais dans l'autre cas, d'ailleurs, aussi, c'est-à-dire que on dit à un moment dans le texte, on dit, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il faut comparer différents systèmes de développement, comme voilà, qui, différents modèles économiques, technologiques, sur le fait d'habiter ou de se vêtir ou de se déplacer. Il faut les appréhender en imaginant ce que ça pourrait avoir comme effet sur d'autres systèmes planétaires. La Terre, Vénus, Mars, etc. Donc il y a une sorte de planétologie comparée. Parce que c'est à ce niveau-là que ça se situe. C'est-à-dire qu'on peut comprendre comment fonctionne un système planétaire que par comparaison avec d'autres systèmes planétaires. Ce sont des équilibres chimiques. Et si le système Terre, en fait, a par exemple une très grande quantité d'oxygène, comme on sait, c'est parce qu'il est oxygéné par des vivants. Et qu'il est loin de son équilibre, disons, par défaut, en quelque sorte. Donc il est activement maintenu dans cet état-là. Donc, bon, nous, on continue ce travail qu'ont fait les bactéries. C'est-à-dire on terraforme la planète, quoi, ce qui est tout à fait normal. Tous les terrestres terraforment la planète. Simplement, on le fait d'une manière qui risque de mettre en danger, y compris la possibilité même de la continuation de cette histoire de terraformation de la planète. Donc là, il y a une superposition de deux logiques. Et c'est ça qu'on appelle conjonction. La conjonction, c'est le fait que ces deux logiques se superposent, mais deux logiques qui s'annulent réciproquement, de fait, et qui pourtant sont de fait conjointes, c'est-à-dire que quand je me chauffe, je fais les deux choses à la fois. Donc c'est ça les conjoint history et la conjonction. Et donc c'est là où cet universel particulier, donc le fait que moi je le fasse, que quelqu'un d'autre, il y a ce magnifique passage sur les air conditioner, comment on dit en français, les climatiseurs,
ouais.
Les climatiseurs qui sont vraiment l'objet ambivalent par excellence, quoi. C'est-à-dire que c'est un objet qui à la fois sauve des vies, parce que quand on a trop chaud, on peut en mourir, surtout en Inde, et qui en même temps contribue à créer le problème qu'elles sont censées résoudre. Donc si c'est le cas en Inde en utilisant des climatiseurs, bon ben voilà, un endroit pour personnes âgées en Inde, à New Delhi en l'occurrence par exemple, où, quand il fait 45 degrés ou 50 degrés pendant des semaines, et moi, ben, on est conjoints en fait dans cette histoire planétaire. Donc là, et cette conjonction, elle relève pas cette fois-ci de la traduction. C'est pas, comme on l'a dit, c'est pas un problème de traduction. C'est que on se trouve embarqué ensemble dans quelque chose dans lequel nous on est ensemble que parce qu'on est l'un et l'autre également annulés d'une certaine manière dans la signification particulière que nous donnons à nos actes par ce processus même. Donc voilà, donc je crois que c'est ça cette notion de conjonction qui permet de comprendre en fait une autre forme de globalisation, puisque encore une fois, que ce soit ici à Paris ou en Inde ou en Arctique ou n'importe où, on peut faire cette opération de mettre ensemble les deux temporalités. Une temporalité qui a une certaine signification au niveau de l'action de l'agent, quel qu'il soit d'ailleurs, humain ou non humain, et sa signification au niveau planétaire. Il se trouve qu'on est dans une situation aujourd'hui où il n'y a probablement pas d'action humaine qui, au regard de leur perspective, en tout cas de développement, ne soit pas concernée par ce problème. Parce qu'il est évidemment exact de dire que on peut faire vivre probablement, je ne me rappelle plus les chiffres exactement, mais enfin disons, un Somalien, la quantité d'énergie que consomme une personne en Somalie est équivalente à celle que consomme Américain moyen, je ne sais plus, un jour, une semaine, enfin bref, c'est des écarts absolument effroyables. C'est tout à fait vrai, mais évidemment, on souhaite que ça ne soit pas vrai pour trop longtemps et qu'il y ait effectivement des perspectives de développement, de réduction de la pauvreté, d'égalisation des conditions humaines, etc. Donc, si on le veut, ça veut dire qu'en fait, on est pris dans le même problème à ce moment-là. Donc, voilà, il y a une conjonction. Et cet universel-là, il faut l'aborder en prenant acte de ce moment de conjonction. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il ne faut pas ensuite s'interroger sur les différences. C'est à partir de cette conjonction que le problème des différences peut être reposé, en fait. Dis-moi comment tu te conjoins et je te dirai qui tu es, quoi. Et c'est plus dis-moi comment tu as traduit et je te dirai qui tu es. Donc on pourrait dire c'est de l'anthropologie au fond, c'est une nouvelle anthropologie cette fois-ci, qui est réellement, je dirais, presque post-structuraliste. Enfin, on va un peu plus loin que Lévi-Strauss, ça aura pris très longtemps.
Mais c'était nécessaire parce que c'était quelque chose qui pouvait paraître obscur et qui est compliqué à comprendre. Et là, je suis heureux qu'on ait pris un quart d'heure sur le terme de conjonction parce que avec votre propos, on comprend beaucoup mieux quel est l'enjeu. Parce que je trouve que votre phrase « si l'universel global se construit par traduction, l'universel planétaire se construit par conjonction », on sent qu'il se passe quelque chose de nouveau, du point de vue des conceptions en tout cas, et qu'il ne faut pas passer à côté. Et pour ça, ça nécessitait bien ce temps-là d'explication.
Alors, je rappelle encore une fois que ce n'est pas un concept qu'il
a
lui-même construit, ouais. Hein, encore une fois. C'est vraiment quelque chose qui... Parce que nous, on s'intéresse l'un et l'autre pour des raisons différentes, parfois les mêmes d'ailleurs, à la catégorie de totalité. Et donc on voit très bien que Chakrabarti, son problème ici, c'est en quoi une certaine figure de la totalisation change les problèmes de rapport entre différence et identité, multiplicité et unité, de problèmes cosmopolitiques. Donc voilà, c'est ça que cette notion de conjonction cherche à attraper, une certaine figure de la totalisation qui n'était pas celle que toutes les réflexions sur la mondialisation ont permis de construire. Encore qu'elles étaient un peu présentes. les certaines figures de la une certaine pensée de la mondialisation mettait en jeu des catégories de la totalité qui étaient probablement pas si incompatibles que ça. Mais
Et alors, je comprends mieux maintenant quelque chose que j'avais trouvé d'assez obscur et que toutes vos explications sur la conjonction me permettent de peut-être mieux comprendre, et vous l'avez esquissé tout à l'heure, Patrice Maniglier, dans ce souci de décentrement de Dipesh Chakrabarti, c'est quand même, avant leur entreprise, le décentrement, vous écrivez « Après avoir proposé une vision décentrée de la modernité à partir de ses marges coloniales, Dipesh Chakrabarti se rend compte qu'il faut la voir non plus simplement depuis l'Inde, mais depuis Mars et même depuis toutes les exoplanètes possibles. » Je commence à mieux comprendre justement avec le planétaire, justement, où vous voulez en venir et où Dipesh Chakrabarti veut en venir. Regarder depuis, se décentrer depuis Mars et depuis les exoplanètes.
Oui, oui, c'est-à-dire si on évalue en fait encore une fois la nature d'une action particulière au regard de ses effets sur le système planétaire, en fait, ça n'a de sens que si on dispose d'une certaine compréhension des mécanismes de ces systèmes planétaires, et ces mécanismes systèmes planétaires supposent en fait un autre type de comparatisme, qui est un comparatisme entre les planètes. Et ça, c'est un point qui, je crois, nous fascine. Qui est effectivement un élargissement du comparatisme assez inattendu tout de même, parce que le comparatisme est plutôt lié en fait au comparatisme anthropologique, donc à la diversité des semblables, car après tout les êtres humains ne sont rien d'autre d'abord que des semblables finalement. Et c'est ça la limite de l'humanité, c'est juste des semblables, donc ça peut aller au-delà de l'espèce humaine de ce point de vue-là, mais donc la diversité du semblable, que le semblable finalement est plus varié que ce qu'on croyait, donc là on compare, quoi. Et là maintenant on a un autre type de comparatisme, qui est un comparatisme planétologique et non plus anthropologique.
Mais alors, je pense que là, c'est peut-être important de souligner peut-être la différence du concept de planète chez Chakrabarti, du concept de Gaïa chez Latour. Justement, du fait que Chakrabarti, son concept de planète ne correspond pas exactement à Gaïa ou à la zone critique. Ouais. Parce que pour lui, il faut intégrer dans le concept de planète à la fois ce qui ne relève pas de la biosphère, donc notamment les parties internes, le cœur, le noyau terrestre qui gère tous les mouvements des plaques tectoniques, la question de l'activité volcanique interne, qui en fait... n'est pas, d'un point de vue conceptuel, n'est pas inclus dans la notion de zone critique, ouais. Parce que il n'y a pas de la zone ce qui se passe dans la zone critique n'impacte pas directement ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, comme ce qui se passe dans la zone critique n'impacte pas directement ce qui se passe sur les autres planètes, à commencer par le Soleil. La zone critique étant cette interface en fait entre ces deux sources d'énergie. Mais dans le concept de Gaïa et dans l'œuvre de Latour, la Terre est en fait circonscrite parce qu'il s'intéresse aux dynamiques terrestres, hein, vraiment aux dynamiques des vivants, qui terrestrialisent, justement, qui rendent cette planète habitable. Chakrabarti, lui, intègre à la fois donc, le noyau interne de la Terre, ainsi que les autres planètes, dans son concept de planète, pour, je crois, faire place à ce qui, précisément, est indifférent à l'existence humaine. Et en fait, à l'ensemble même des vivants. Et donc, il va distinguer, en fait, pour lui, son concept de planète vient s'ajouter à une série de concepts philosophiques. Donc, il y a d'abord le concept de monde, qui est donc un concept de la phénoménologie et qui, en fait, signifie le sol universel de l'existence humaine, qu'il va ensuite distinguer du concept donc, de terre, donc ici, qui serait plus ou moins équivalent à Gaïa, qui serait donc la condition de possibilité de cette existence humaine du fait de l'habitabilité de la terre. et auquel, lui, il ajoute vraiment la notion de planète par rapport à ça.
Au fond, ce n'est que d'un point de vue extraterrestre que nous sommes terrestres. Et c'est vrai que cette dimension de l'extraterrestre était quelque chose, effectivement, qui manquait un peu, notamment dans les derniers ouvrages, en fait, de Bruno Latour. Tandis que là, on voit bien, effectivement, ce... Peut-être, moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, parce qu'il a une approche tellement comparatiste, dit Pachak Chabarty.
Absolument.
Il a ce souci de l'extraterrestre, et encore une fois, l'extraterrestre ne nous arrache pas à la Terre. L'extraterrestre permet au contraire de mieux nous terrestrialiser, pour utiliser un terme que, sur lequel j'insiste, hein, donc, et vraiment de manière très précise. C'est-à-dire que si on veut comprendre ce que nous faisons ici et maintenant, à cette heure précise, avec ce micro, en écoutant cette émission, etc., eh bien, on doit le comprendre du point de vue de son implication dans les processus planétaires. Et ces processus planétaires ne peuvent être appréhendés comme tels que de point de vue radicalement décentré des espaces infinis qui nous effraient, quoi. Et c'est donc de ce regard absent, d'une certaine manière, que nous allons pouvoir appréhender ce que nous sommes ici et maintenant de la manière la plus précise possible, quoi. Donc ça, c'est extrêmement beau, et ça réintroduit cette dimension, on pourrait dire, gnostique ou cosmologique, qui peut-être manquait un peu dans la perspective qui était trop, parfois trop phénoménologique, qu'on pouvait trouver chez Bruno sur ce point-là, en fait, parce que pas du tout sur d'autres, en réalité. C'est un petit moment, un petit affaiblissement phénoménologique.
Pourtant, c'est Dipesh Chakrabarty qui a dégagé un peu.
Absolument, les choses sont toujours à l'envers, ça c'est frappant. Mais voilà, donc ça c'est quand même le point intéressant. Donc, provincialiser l'Anthropocène. Alors, provincialiser l'Anthropocène, ça veut aussi dire provincialiser l'Anthropocène par rapport à toutes les trajectoires planétaires possibles. Ok, c'est vrai. Mais ça veut quand même aussi dire l'inverse. C'est-à-dire qu'à partir du moment, en tout cas, c'est une suggestion qu'on fait, et je pense qu'on aura l'occasion de travailler sur ça dans l'avenir, parce que à partir du moment où on accepte que cette trajectoire, enfin, n'en est qu'une possible, enfin, plus exactement, qu'il y a une dimension comparatiste dans l'appréhension des actions humaines d'un point de vue planétaire, c'est-à-dire avec les outils des sciences du climat, de la géologie, des sciences du vivant, etc., que cette approche n'a de sens que si elle est comparatiste. C'est un point très, 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 très important qui n'est pas, finalement, je pense, tellement maintenu à l'esprit des gens qui le font. C'est-à-dire que c'est comparatiste, en fait, ce qu'ils font là. Il n'a de sens que si c'est comparatiste. Si on décrit aujourd'hui une trajectoire à 2 degrés, 3 degrés, etc., en fait, on déplie un champ virtuel de Terre possible, et on les compare les unes aux autres, et on ne peut le faire qu'en les comparant, encore une fois, à Mars, à Vénus, et maintenant à plein d'exoplanètes. Donc c'est comparatiste. Mais si c'est comparatiste, alors pourquoi est-ce que les outils développés par les traditions comparatistes, plutôt en sciences humaines, enfin, pas que, bien sûr, d'une certaine manière, la biologie est comparatiste, la planétologie est comparatiste. Mais enfin, là, du coup, il y a peut-être un espace épistémologique commun, en fait, aux sciences humaines et aux sciences naturelles, pour les appeler comme ça, qui mériterait d'être creusé. C'est-à-dire il y a là peut-être aussi un emprunt de la part de ces sciences planétologiques qui pourrait être fait de certains outils développés par l'anthropologie, typiquement, par l'histoire critique de la première, disons, partie de l'œuvre de Chakrabarty, pour essayer de réfléchir, en fait, aussi à ce que veut dire une comparaison. Je prends qu'un exemple. Le comparatisme a connu quand même une clarification très forte avec Viveiros de Castro. Quand Viveiros de Castro dit, en s'inspirant d'autres, Roy Wagner, etc., quand Viveiros de Castro dit comparer, en fait, ça n'est pas subsumer sous un type différents cas particuliers, c'est mettre en variation le type, c'est comprendre quel genre de variante particulière ce type est quand je le traduis dans d'autres types. Et c'est au fond exactement ce qu'on a fait tout à l'heure en parlant de l'histoire ou de la modernité comme devant être traduite et donc rétroactivement permettant de relativiser ce qu'on croyait être un universel surplombant. Donc ce processus d'immanentisation des universaux surplombants est une invention des disciplines comparatistes. Ben, ne pourrions-nous pas faire la même chose au concept de planète ? Est-ce que au fond la planétologie comparée elle-même ne pourrait pas gagner quelque chose à disons, se dire bon, ben, la notion même de planète doit être mise en jeu et relativisée dans la découverte d'une exoplanète. Peut-être que ce qui change d'une exoplanète à une autre, ça n'est pas simplement la manière dont fonctionnent les exoplanètes, mais le concept de planète. Et j'en veux pour preuve la question du vivant. Parce que définir la vie, d'une manière générale, alors ça, je crois que les gens qui font de l'exobiologie le savent, hein, qui est la grande difficulté, c'est d'avoir un concept, a priori en quelque sorte, de la vie qui vaudrait pour toutes les planètes possibles. Bon. Et en vérité, bon, bah, quand on travaille, on se rend compte que peut-être on ne sait pas ce que c'est que la vie. Et donc on va se rendre compte que ce qu'on appelle la vie, enfin, au sens des acides aminés, des chaînes carbonées, etc., n'est qu'une variante particulière de quelque chose qui est en fait de la vie. Bon, par exemple, on pourrait dire que bah, ce qui est vivant, c'est ce qui fait ce que fait la vie sur Terre, hein, ce qui fait Gaïa, c'est-à-dire que ça maintient des équilibres biogéochimiques loin de l'équilibre.
Ça, c'était la proposition derrière de Lovelock, de dire en fait,
donc ça peut avoir
le concept de Gaïa, c'est pas du tout un super-organisme, en fait, c'est une nouvelle définition de la vie.
Exactement, donc, mais ça peut vouloir dire que du coup, les supports microbiologiques, enfin les supports physiques de la vie sont différents, pour autant que la fonction qui est de maintenir des équilibres chimiques loin de leur... Enfin, de maintenir plus exactement des systèmes loin de l'équilibre est maintenu. Donc, on pourrait très bien imaginer ce genre de choses. Et bien, ça, ce sont des importations, disons, de rationalité ou d'épistémologie issue des sciences humaines à l'intérieur de ce vaste champ, quoi, par exemple, de l'exobiologie, en l'occurrence. Bon. Et je pense qu'on a besoin de ce type de rencontre et que c'est vraiment frappant qu'on soit à cette époque-là. Hein. Donc, Chakrabarty fait ce travail d'insister au sein des sciences humaines pour dire non mais prenez au sérieux quand même le fait que des gens aujourd'hui en planétologie s'intéressent à ExxonMobil quoi et à la structure des titres de valeur boursière hein. C'est ça détermine une planète en fait comment vous construisez en fait un marché financier ça détermine une planète bon. Ben, maintenant donc, prenons ça au sérieux parlons avec un langage qui peut parler aussi aux gens des sciences de la nature, mais inversement. Ce serait quand même pas mal que les gens qui font des sciences du climat ne se contentent pas d'ajouter simplement un petit chapitre anthropologie peuple autochtone à leurs travaux, mais effectivement se disent, mais en fait, les peuples autochtones nous apprennent à travers aussi le travail des anthropologues, d'ailleurs. Enfin, disons, il y a des épistémologies qui sont développées dans la manière dont les peuples autochtones luttent pour leur justice épistémique. Et il y a peut-être des outils, mais scientifiques, à proprement parler, scientifiques. Donc je pense que c'est aussi intéressant de dire que le livre de Chakrabarty, on n'a pas vraiment eu le temps de le dire dans l'article, mais de dire que le livre de Chakrabarty ouvre à ces perspectives, que lui-même, encore une fois, ne cherche, enfin ne voit peut-être même pas d'ailleurs, en tout cas, il le dit quand même, la planétologie comparée, ça l'étonne quand même. Il se rend compte que c'est quand même étonnant, ce plan commun où un historien se trouve en discussion avec quelqu'un qui fait de l'exobiologie. C'était quand même assez inattendu. Mais bon, il le développe, mais je pense que c'est important de dire que ce livre ouvre aussi à ce type de mutation profonde.
Peut-être que la phrase finale pourrait être votre conclusion dans votre article, et que la principale contribution de Dipesh Chakrabarty, je vous cite, est sans doute d'avoir attiré l'attention sur la nécessaire complication des outils critiques même dont on croyait pouvoir faire usage pour alerter sur la situation. Nous terminons ainsi.
Très bien.
Merci beaucoup à vous deux. Merci.
Merci beaucoup.
Merci.